Parcom.
Les paractualités. Nous sommes le 15 novembre 2016 et c'est Clotilde de Seille au micro de Canal M, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ces paractualités, les titres. Alors, de l'argent pour la recherche québécoise sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. Enfants lourdement handicapés, les critères d'admissibilité de l'allocation sont critiqués. Le centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, se classe de nouveau en tête du palmarès nord-américain de la recherche francophone en santé. La région de Lanaudière compte maintenant sur son territoire une nouvelle ressource spécialisée pour les troubles graves du comportement et un Père Noël sensibilisé aux enfants autistes au Nouveau-Brunswick. Sinon, deux entretiens aujourd'hui avec Monique Lefebvre, directrice générale d'Alter Go, qui va recevoir une mention honorifique du gouverneur général du Canada, et puis Manon Boisvert, directrice du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2 de la région de Lanaudière. Les adultes atteints de maladies rares ont réussi à capter l'attention de Québec. La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation a annoncé lundi que 3 millions de dollars seront versés à l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM, au cours des 5 prochaines années afin d'appuyer la recherche sur ces maladies également qualifiées d'orphelines. Le projet, qui totalisera un investissement de 11,1 millions de dollars, vise à mettre en place un centre où toute la recherche québécoise sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte sera centralisée, ce qui sera une première pour une province au Canada. Actuellement, cette recherche se fait plutôt au cas par cas, selon l'intérêt des chercheurs, et aucune concertation n'est faite sur le sujet. Déjà depuis octobre, une clinique de recherche a commencé à se pencher sur les immunodéficiences primaires chez l'adulte, une maladie génétique qui entraîne un système immunitaire déficient ou complètement absent. On compte également lancer des protocoles de recherche sur l'hypercholestérolémie familiale rare et les maladies rénales rares chez l'adulte. Une maladie rare est définie comme étant une maladie qui touche moins de une personne sur 2000. Et on estime que près de 500 000 en sont porteuses au Québec et 2,5 millions au Canada. Plus de 7 000 maladies rares ont été répertoriées à travers le monde. Enfants lourdement handicapés, les critères d'admissibilité de l'allocation critiqués. Des parents d'enfants lourdement handicapés espèrent toujours le coup de pouce financier promis par le gouvernement. Une allocation supplémentaire a été annoncée au printemps dernier pour les aider, mais seulement 10% des demandes traitées jusqu'ici ont reçu une réponse favorable. Les critères d'admissibilité du programme sont mis en cause. C'est un texte de Camille Simard. Retraite Québec, qui administre les allocations du soutien aux enfants, a reçu 2 700 demandes de parents souhaitant bénéficier du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels depuis la mi-juin. Plusieurs réclamations ont toutefois été rejetées parce qu'elles ne répondent pas aux critères établis. « J'étais sous le choc. Je pleurais énormément. J'étais bouche bée. Je ne comprenais pas ce qui se passait », raconte Gisèle Perron, une mère qui comptait sur cette allocation pour l'aider à s'occuper de sa fille de 10 ans. Kitiria est née avec une maladie génétique rare et sa condition exige des soins constants. Elle a 2 paralysies cérébrales. Elle est nourrie par gavage et elle a une spasticité au niveau des jambes en plus d'une déficience intellectuelle sévère. Son âge se situe entre 2 et 3 ans, explique Gisèle Perron. Madame Perron, qui s'attendait donc à recevoir 947 dollars par mois avec la nouvelle prestation, on m'a téléphoné pour me dire que le cas de Kitiara était refusé. Une infirmière lui a expliqué que sa fille remplissait seulement 1 des 7 critères pour être admissible. Dans une communication écrite, un porte-parole de Retraite Québec confirme avoir reçu un nombre de demandes plus important que prévu. Il dit, Monsieur Frédéric Lisotte, nous sommes bien conscients que les situations vécues par les familles sont difficiles, mais des refus seront inévitables, étant donné que la mesure vise des cas pouvant répondre aux critères de situation exceptionnelle et hors du commun. « Aujourd'hui, je suis très heureuse et pour ne pas dire très très honorée de m'entretenir avec quelqu'un qui va l'être bientôt d'ailleurs honorée, c'est Madame Monique Lefèvre. Bonjour Madame Lefèvre.
Bonjour Madame.
Vous êtes directrice générale d'Altergo.
Exactement.
Et vous allez recevoir... Et vous avez reçu déjà la croix pour service méritoire par le gouverneur général du Canada. Ou non, ça va être remis le 25 novembre, c'est bien ça?
Non, j'ai déjà reçu la lettre qui nous confirme. Et quand on reçoit la lettre, on peut en parler publiquement.
On peut,
et
bon.
Et la remise, par contre, la remise officielle et la cérémonie va être le 25 novembre prochain à Ottawa.
Eh bien écoutez, Madame Lefèvre, au nom de toute l'équipe de la Radio Canalem, toutes nos félicitations, bien évidemment, pour l'ensemble de votre travail.
Ben, merci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, puis sachez que je suis encore très motivée à aller encore plus loin.
Eh bien, ça, c'est fantastique. Alors, parlons-en, s'il vous plaît, de ce qui se passe. Bon, il y a un regroupement, qui est le regroupement pour un Québec en santé.
Oui. Hein,
c'est bien ça.
Absolument.
Bon, pourriez-vous peut-être expliquer à nos auditeurs à quoi sert ce regroupement, s'il vous plaît?
Eh bien, c'est un regroupement qui affirme la mobilisation des organisations à travers le Québec pour qu'enfin on se dote de moyens encore plus grands pour améliorer la santé des Québécois. Alors, dans l'opinion publique, il y a 87% des Québécois qui sont conscients qu'il faut améliorer les environnements, améliorer les saines habitudes de vie. Mm-hmm. Alors, c'est un changement parce que il y a 10 ans, ben, les personnes ne pensaient pas nécessairement aussi fortement que c'était important de prendre soin de sa santé, de bouger. Alors, ce qu'on veut faire, puis notre porte-parole, c'est Sylvie Bernier, qui est en avant pour mobiliser les Québécois pour qu'on puisse dire aux décideurs, ben, pour nous, les Québécois, c'est important de bouger et de vivre en santé, c'est ce qu'on veut. C'est l'objectif de ce mouvement.
Alors, quel projet précisément avez-vous pour le Québec et les Québécois?
Ben, le projet, c'est de faire en sorte que les Québécois aient le moyen de mener une vie active. Parce que là, on en parle, mais les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins des citoyens. Mm-hmm. Alors, on réclame une implication plus grande de la part des décideurs pour faire en sorte que les environnements soient plus favorables. On le vit concrètement dans les régions avec les difficultés de transport. Quand on passe plus d'une heure et demie par jour assis dans une voiture pour se transporter à son travail et en revenir, c'est pas la meilleure façon de bouger.
Non,
d'avoir
c'est
une
sûr.
Vie active.
Non, c'est
alors,
certain.
Il faut qu'on puisse affirmer et travailler ensemble pour exprimer qu'on veut que ça change.
Qu'est-ce que ça implique de la part des décideurs?
La part des décideurs, c'est de prendre des positions. On sait, par exemple, que les gens consomment beaucoup de boissons sucrées. C'est pas bon pour la santé. Les jeunes fument encore beaucoup. Alors, pourquoi les décideurs voudraient pas, par exemple, taxer les boissons sucrées, taxer davantage les cigarettes pour créer un fonds qui permettrait à des organismes qui sont actifs, qui changent et qui aident les citoyens à améliorer leur santé et leur qualité de vie, ben, qu'on investisse dans ces groupes-là, qu'on leur donne des moyens d'aider les Québécois. Ce qu'on veut, c'est une prise de position des élus pour mettre l'argent à bonne place.
Bien sûr, bien sûr. J'ai lu quelque part qu'on parle d'une approche intersectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ben ça c'est un changement important. C'est qu'on souhaite que les gens qui sont impliqués dans le développement des saines habitudes de vie travaillent ensemble. Et entre autres, au niveau du gouvernement, faire que les ministères travaillent en concertation. Mm-hmm. Alors, par exemple, le ministère de la Santé travaille avec le ministère du Transport, travaille avec l'Éducation, travaille avec le Sport et Loisirs. On a une vision d'ensemble. Le Québec s'est d'ailleurs doté d'une politique de prévention de la santé, bien que les acteurs impliqués, au lieu de travailler tout seuls dans leur coin, bien, travaillent ensemble, mettent les ressources, puis se dotent d'une vision plus grande. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que le 21e siècle soit le siècle de la révolution active. Alors, on a passé à la révolution tranquille, mais là, on est rendu une révolution active.
Oui. Je vais me permettre, Madame Lefèvre, de vous poser peut-être une question qui va vous sembler peut-être un petit peu parallèle, si vous me le permettez.
Certainement.
Mais il me semble que, par exemple, au niveau de la santé, au niveau de l'obésité, au niveau... ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on insiste beaucoup sur l'idée de bien manger, de mieux s'alimenter, etc. Et pourtant, on voit toujours le nombre d'obésité augmenter. On voit toujours... À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça, d'après vous?
D'après moi, c'est les environnements. Tantôt, je vous parlais de transport. Mais l'environnement, qu'on puisse avoir accès à des meilleurs services de transport en commun... quand tu prends le transport en commun, c'est reconnu que les gens marchent au moins 30 minutes par jour.
Ah,
quand
oui.
tu montes 30 minutes par jour, tu es actif. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les ministères travaillent ensemble avec les organisations pour
D'accord.
donner et développer les moyens, parce qu'on a un seul tissu, on a toujours les mêmes services que là, 20 ans.
Est-ce qu'on peut craindre carrément un désengagement financier du Québec?
Bien, si je disais oui à cette réponse, ça veut dire que je baisse les bras sur la mobilisation.
Mais il faut pas.
Alors,
alors vous avez raison.
Il faut pas baisser les bras.
D'accord.
Il faut maintenir une pression. Il faut dire aux élus
qu'on
souhaite passer à l'action. Puis ce qui est formidable dans le regroupement pour un Québec en santé, si vous regardez la documentation, vous entendez Sylvie Bernier, les personnes handicapées sont incluses dans le regroupement. On parle d'accessibilité universelle, on parle d'une société inclusive.
Oui.
Alors ça, c'est un coup de chapeau à ce mouvement de nous avoir fait une place et de nous permettre d'être actifs.
Bien, écoutez, c'est assez éloquent. Effectivement, vous savez, j'ai pris connaissance d'un dossier assez lourd finalement et sur le sujet ce matin. Et je suis heureuse de voir qu'il y a des gens comme vous qui prenez ça en main, madame.
Ben, merci.
Madame Lefebvre.
Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que les Québécois se joignent à nous pour appuyer. Alors, si les auditeurs veulent bien aller sur le site web du regroupement pour un Québec en santé et appuyer. Que ce soit comme individu ou organisme, c'est vraiment de signifier notre adhésion au mouvement puis notre volonté que les choses changent.
Et je vois qu'il y a un formulaire d'appui, d'appui au regroupement pour un Québec en santé. Je l'ai dans la main. Il est d'ailleurs très bien fait. On nous dit attendu que, donc par exemple, attendu que le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une politique gouvernementale, etc., etc. Donc, attendu que, alors maintenant, on agit. Hein? Alors, nous, du regroupement pour un Québec en santé, demandons. Alors, effectivement, si vous êtes un organisme ou simplement une personne qui juge que cela est essentiel, eh bien, rendez-vous sur le site, si je fais regroupement RPQS, est-ce que c'est correct ou correct?
J'imagine, mais désolé, je n'ai pas essayé l'abréviation.
D'accord. Donc, c'est vraiment regroupement pour un Québec en santé.
Oui. Absolument.
Merci infiniment,
c'est moi qui vous remercie,
Madame Lefebvre. Mais je vous en prie, et puis passez une belle journée. Alors, quand vous allez recevoir le 25 novembre prochain cette décoration, vraiment qui sera d'ailleurs soulignée entre autres dans la Gazette. Hein. C'est quand même quelque chose.
Ben, écoutez, la croix du service méritoire. Je
c'est ça.
Remis par le gouverneur général. Je dois vous avouer que je m'attendais vraiment pas à ça.
Eh bien, bravo.
Merci beaucoup.
Passez une très belle journée, Madame. Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, le Centre de recherche du CHU de Québec Université, le CRCHU Laval, se classe de nouveau en tête du palmarès nord-américain de la recherche francophone en santé, selon la firme torontoise Research InfoSource. Cette firme compile annuellement les revenus de recherche de 40 hôpitaux canadiens. Le CRCHU, dont les revenus s'établissent à 91 millions de dollars, joint maintenant les rangs des 10 premiers centres de recherche au Canada. Le CRCHU devance à cet égard le Centre de recherche du CHUM qui affiche des revenus de recherche de 67 millions de dollars. Plus de 2600 personnes travaillent au Centre de recherche du CHU de Québec. Parmi les percées récentes, des chercheurs du CRCHU ont mis au point la première étude clinique au Canada sur un vaccin contre le virus Zika. Une équipe de recherche a également identifié une nouvelle cible thérapeutique intéressante dans le traitement de la sclérose en plaques. Nous concentrons nos efforts pour améliorer la qualité de vie des personnes malades et augmenter significativement leurs chances de guérison, souligne le directeur du CRCHU, le docteur Serge Rivet. La région de Lanaudière compte maintenant sur son territoire une nouvelle ressource spécialisée pour les troubles graves du comportement. La ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois, a procédé aujourd'hui, donc c'était le 14 novembre, à l'inauguration de la ressource Dianova en compagnie d'acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Dianova est une ressource spécialisée pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, DI, ou un trouble du spectre de l'autisme, le TSA, et qui présente également un trouble grave de comportement, TGC. Elle offre un environnement physique et social sécuritaire, répondant aux besoins d'intensité de services et de spécialisation nécessaires pour cette clientèle. Cette nouvelle ressource permettra de mieux servir les personnes ayant des besoins complexes en matière de troubles de comportement, a déclaré Mme Charlebois. L'intégration progressive des résidences est effectuée au cours des derniers mois. La maison offre 5 places permanentes et une de dépannage. Elle est sous la responsabilité du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière et basée sur les meilleures pratiques en matière d'intervention spécialisée et d'aménagement physique. Notre gouvernement a à cœur de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. J'aimerais souligner le travail de l'équipe de Dianova qui veille au mieux-être des résidents, a conclu la ministre Charlebois. Elle est directrice du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2, la région de la Naudière. Et on va parler ensemble de l'importance de l'ouverture des employeurs à l'embauche des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Bonjour, Madame Boisvert.
Bonjour, Madame Fay.
Alors, Manon Boisvert, dites-moi, parlons-en de l'importance de l'ouverture des employeurs à l'embauche des personnes ayant des limitations fonctionnelles. C'est encore un souci, c'est encore un problème, hein?
C'est encore un problème. Heureusement, il y a de plus en plus d'employeurs qui s'ouvrent à l'embauche des personnes handicapées. Mm-hmm. Par contre, il y a toujours du travail à faire au niveau de la sensibilisation. Puis c'est souvent tout simplement par manque de connaissances. C'est souvent des préjugés. Là, quand mm-hmm. on parle de personnes handicapées, les gens oublient que ces personnes-là ont aussi des forces, des compétences.
Exactement. Alors, vous êtes là justement pour le rappeler. J'imagine que vous offrez différents services à ce sujet. Quels sont les services que vous offrez?
Au service spécialisé de main-d'œuvre, on rencontre la clientèle là, qui a des limitations. Ça peut être autant limitations physiques, santé mentale ou déficiences intellectuelles, par exemple. Okay. Aussi, on aide les personnes autistes, dysphasiques. Mm-hmm. Donc, on les aide là, à intégrer le marché du travail. On commence par les admettre à nos services. On fait des rencontres là, en individuel, des rencontres d'une heure.
Okay.
Si la personne est inscrite, elle va être inscrite pour une année. Ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est l'aider à se placer avant un an. Par contre, elle a une année là, pour travailler. On peut travailler avec elle l'estime de soi, son profil d'employabilité, essayer de voir c'est quoi ses rêves, ce qu'elle voudrait faire comme travail, ses compétences. Toujours là en espérant que la personne puisse intégrer un emploi
bien
qui
sûr.
Va lui convenir et qui va convenir aussi à l'employeur.
Ça représente combien de personnes à peu près en un an, par exemple, que vous voyez qui s'inscrivent?
Oui, chez nous, on a inscrit 265 personnes là, cette année.
OK.
Donc, on a des objectifs là, de les placer en emploi au moins 50 % de notre clientèle. Par contre, on dépasse toujours nos objectifs. Donc,
ben oui.
On peut dire que les employeurs sont quand même ouverts. Là.
Alors, quels sont les critères pour aider un chercheur d'emploi?
Ben, par exemple, le premier critère pour arriver chez nous, c'est que la personne doit avoir une limitation.
Oui.
Et elle doit être capable de travailler au moins 12 heures par semaine.
Ah, OK.
Donc, ça veut dire d'être assez forte physiquement. Là. Par contre, ça peut être des fois sur différentes journées, là, 12 mm-hmm. heures en 3
oui,
jours.
Oui. Oui, c'est clair.
Mais oui, la personne doit être capable de travailler au moins 12 heures.
D'accord. Et puis, pour sensibiliser les employeurs, qu'est-ce que vous faites exactement? Comment procédez-vous?
On procède de différentes façons. Par exemple, on fait partie de certains comités. Par exemple,
oui.
on est dans un comité sensibilisation des employeurs où on travaille avec la Chambre de commerce.
Mm-hmm.
On va participer à des tournois de golf dans des kiosques pour essayer de faire de la sensibilisation. Mais nos conseillers, dans leur vie de chaque jour, doivent appeler des employeurs pour essayer mm-hmm. De faire valoir là, les compétences de leurs clients. C'est vraiment du cas par cas. Donc, par exemple, si on a un employé, un client, par contre, qui voudrait travailler chez McDonald's,
oui.
on va appeler la personne des ressources humaines de l'entreprise pour essayer de faire valoir les forces de la personne.
Okay.
Par contre, aussi, on peut les aider. Des fois, c'est pas nous qui contactons les employeurs, c'est nos clients eux-mêmes. Ça dépend là, mm-hmm. de leur
D'accord.
degré d'autonomie
D'accord.
et de leurs besoins, toujours.
Vous êtes un peu leur agent, finalement, sans prendre de pourcentage.
Oui, c'est un peu ça. des gérants d'artistes là, qui essaient de les vendre, c'est nous, ça. C'est un peu ça qu'on fait. Là. C'est vraiment de faire valoir leurs forces, leurs compétences et de pouvoir trouver des postes où ils pourront se développer. Là.
Les défis doivent être importants, hein, d'intégrer ces gens-là.
Oui, c'est des bons défis. C'est pour ça qu'on a, entre autres, des agents d'intégration chez nous qui peuvent aider, là, qui peuvent accompagner. Pareil, on a un programme, un projet actuellement qui s'appelle Travailleurs engagés en devenir, qui nous permet justement d'embaucher une agent d'intégration qui va en entreprise et qui est dès le début de l'emploi. Donc, elle peut aider là, autant l'employeur à comprendre les spécificités là, de la personne, sensibiliser les collègues justement aux caractéristiques et puis aider la personne là, souvent hein, on même si on n'a pas de limitation on vit toujours de l'anxiété quand on intègre un nouvel emploi essaie de travailler à ce niveau-là au niveau de l'anxiété là, de la personne qu'elle puisse le contrôler
et puis j'imagine qu'une fois que l'emploi est trouvé c'est pas pour ça que c'est gagné c'est après faut que la personne parvienne à rester là
oui,
là
c'est
aussi
ça.
C'est il y a un travail à faire.
Oui, c'est ça qui est important pour nous. On est toujours disponible pour aider autant l'employé que l'employeur. S'il arrive quelque chose de particulier pendant l'emploi, l'employeur peut nous appeler, l'employé aussi. On peut se présenter sur place pour essayer de voir ce qui ne va pas. Des fois, c'est des petits détails qui vont faire en sorte qu'on... On peut trouver un outil, nous, développer, par exemple, une grille de tâches ou faire des choses qui vont faire toute la différence là, pour que la personne puisse maintenir l'emploi. Ou des fois, c'est une mauvaise communication entre l'employeur et l'employé. Donc, on va travailler là-dessus. C'est sûr que un bon pourcentage de nos personnes sont placées avec des aides financières, mais il y en a aussi qui non. Donc, on est toujours là quand même pour aider là, les employeurs et les employés.
Est-ce que je disais bien tantôt en parlant d'essor 2?
Oui.
Bon, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un essor 1, ça?
Il y a eu un premier projet qui s'appelait essor 1.
Ah, d'accord.
Et qui était surtout pour aider les personnes avec qui avaient une limitation en santé mentale. Plus.
D'accord.
Puis après ça, ça s'est développé et on a pu admettre là, plus de personnes qui ayant différentes limitations. Donc, vous comprendrez que notre personnel a des beaux défis aussi. C'est intéressant parce qu'on a des personnes qui sont là depuis longtemps, 10 ans, 15 ans, 16 ans, qui ont de l'expérience avec toute limitation.
Bien
sûr. Et c'est sûr qu'on fait toujours aussi de la formation là, continue pour être à jour sur ce qui se fait, ce qui fonctionne. Là. Par exemple, en autisme, actuellement, on a de plus en plus de clientèle autiste. Donc, on est formé, on cherche de l'information pour aider les personnes du mieux qu'on peut.
Eh bien, merci beaucoup, Manon Boisvert, au nom de ces personnes-là. Je rappelle que vous êtes directrice du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2.
Je vous en prie, Madame Seille, ça me fait plaisir et merci à vous.
Je vous en prie. Bonne journée, Manon.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne
Par actualité nationale et internationale, la première ministre Christy Clark a inauguré mercredi à Richmond, dans le Grand Vancouver, un vaste centre pour autistes en présence de politiciens fédéraux, provinciaux et municipaux. La province a contribué à hauteur de 20 millions de dollars sur les 28 qu'a coûté l'établissement. D'une surface de plus de 5500 mètres carrés, le Good Life Fitness Family Autism Hub veut réunir en un lieu unique tous les services utiles aux autistes. Une cliniques, des laboratoires, des salles de classe ou encore des espaces pour la recherche. Bien que le centre soit installé à Richmond, 8 autres branches doivent voir le jour à travers la Colombie-Britannique qui dénombre 69 000 personnes atteintes d'autisme, toutes catégories d'âge confondues. Dans une société digne, nous sommes définis par notre manière de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ce centre répond à des standards extrêmement exigeants, comme presque nulle part ailleurs dans le monde, a déclaré Christy Clark aux côtés de la ministre des Sports et des Personnes Handicapées, Carla Caltro, et du maire de Richmond, Malcolm Brody. L'organisme Pacific Autism Family Network est à l'origine du projet. Un Père Noël sensibilisé aux enfants autistes. Pour des enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, le TSA, aller à la rencontre du Père Noël dans un centre d'achat bondé peut être ardu, voire impossible. Alors, depuis quelques Noëls, un Père Noël spécial vient à la rencontre de ses enfants, nous raconte Émilie Pelletier-Grenier. Les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ils peuvent avoir des sensibilités au niveau du visuel, des bruits, des gens. Bien sûr, on parle dans un centre commercial et c'est ce que nous explique Angèle Colette, directrice générale du Centre de ressources sur l'autisme, l'ARC, du Nouveau-Brunswick. C'est entre autres pourquoi ce même centre organise depuis 5 ans l'activité du Père Noël sensibilisé. C'est à la place Champlain, à Dieppe. Le centre d'achat dans le temps de Noël, c'est difficile pour tout le monde, même comme moi, comme adulte, même pour moi. Pardon. Moyennant la prise d'un rendez-vous, on peut organiser une séance personnalisée de prise de photos avec le Père Noël, sensibilisé. L'activité se déroule à un moment où le centre commercial est fermé. Et on prend l'initiative de fermer la musique, ainsi que les lumières. Pour Madame Colette, il est important de donner l'occasion à ses enfants et à leur famille de vivre ce moment des fêtes qui autrement ils ne le vivent tout simplement pas. Les enfants qui viennent durant cette activité-là n'y venaient pas avant. Et puis il y a cette ambiance particulière qui donne même naissance à des moments uniques. Ils sont capables de prendre des photos qui ne sont pas aussi traditionnelles, fait remarquer la directrice. Puisque le centre d'achat est fermé, l'homme à la barbe blanche a plus de temps aussi à accorder aux enfants. Il est juste très bon avec les enfants, a souligné Madame Colette. Elle a d'ailleurs souligné que les enfants autistes sont aussi parfois rebutés par l'apparence ou par les manières du Père Noël. Alors, celui-ci s'adapte. L'activité du Père Noël sensibilisé se tient le 4 décembre prochain de 9h à 11h à la place Champlain. Si vous nous écoutez du Nouveau-Brunswick, le 4 décembre prochain de 9h à 11h à la place Champlain. En rafale maintenant, cet appel à la mobilisation, action de revendication, manifestation pacifique. Il serait temps, si vous voulez vous y rendre, c'est dans quelques minutes, si vous habitez l'arrondissement de Saint-Hubert, à l'intersection de boulevard Jacques-Marcille et boulevard Cousineau, vous êtes attendus. Joignez-vous aux membres du comité Rive-Sud du RAM pour revendiquer l'installation de feux de circulation munis d'un signal sonore à l'intersection du boulevard Jacques-Marcille et du boulevard Cousineau. Venez signifier aux autorités municipales et gouvernementales le besoin pressant de faire l'aménagement de feux sonores aux intersections où les déplacements sont jugés dangereux ou impossibles pour plusieurs résidents de la rive sud. Nous vous attendons en grand nombre. Donc, c'est dans quelques minutes à l'intersection boulevard Jacques-Marcille et boulevard Cousineau dans l'arrondissement Saint-Hubert. Le Cercle des handicapés visuels Ville-Marie vous convie à un souper avec de la musique et de la danse au restaurant Le Coq du quartier de Longueuil le 19 novembre prochain à compter de 17h30. Il faut réserver votre place auprès de Linda Noël dans le 514 au 255 34 34. Voilà, je vous laisse sur cette nouvelle. C'était Clotilde Sey qui animait pour vous les Par Actualité. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous. Bonne fin de journée. Je vous retrouve demain matin à 11h30.